Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes de nouveau en compagnie de Rémi, en compagnie de Valérie Ladanne pour notre émission hebdomadaire que vous connaissez tous sous le nom de Colvette Cédère, l'émission qui parle de nos animaux de compagnie et de leurs problèmes et de leur bonne santé et de tout ce qui peut se poser comme question et selon les idées folles de nos amis et des sujets que l'on peut préparer pour vous. Colvette Cédère est sur les réseaux sociaux. Sur internet d'abord, www.radiojudaica.be et sur Spotify. Avec nos deux acolytes du jour, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet tout aussi intéressant que les précédents. On parle de l'allergie chez le chien, une maladie de plus en plus fréquente, aussi bien chez le chien que chez l'homme. Donc c'est vraiment une pathologie qui croît. Est-ce le fait de notre société, là, de ce qu'on mange, de ce qu'on, de
le
ce qu'on
stress,
respire,
la pollution.
On y est. Devant une pathologie surtout cutanée, on va parler de la pathologie cutanée, et qui a différentes causes, différents aspects. Valérie, on te laisse nous parler des différentes...
Introduire les différentes allergies. Donc la plus fréquente qui est quand même l'allergie aux puces, à la piqûre de puces, à la salive de puces. Là, on va se retrouver avec un chien qui aura des lésions surtout dorsolombaires, qui va commencer à
donc
se mordiller.
Donc sur la ligne du dos, plutôt vers l'arrière.
Vers
du
l'arrière
dos.
Et qui va commencer au-dessus un petit de la peu queue. À se mordiller, à se gratter, à se blesser. Donc ça, c'est assez typique.
Alors même si la puce le pique sur la patte, il va se gratter tout à au-dessus
fait
de la queue.
En région dorsolombaire.
Donc c'est bien la piqûre et la salive de puce qui va se mettre dans la circulation, qui va
induire toute cette réaction allergique et libération d'histamine et donc cette réaction de grosses démangeaisons. Et l'animal, évidemment, en se léchant et en se grattant, va compliquer le terrain en apportant des bactéries, des complications bactériennes et avec apparition de lésions qui peuvent être assez d'ailleurs envahissantes et importantes. Et donc c'est une des allergies. C'est l'allergie que je préfère parce que finalement, c'est l'allergie. On a la solution. Il suffit d'éliminer les puces. Alors, il suffit, c'est pas toujours évident.
Oui. Faut pas gagner d'avance.
La puce, elle vit sur le chien. Oui. Elle vit sur le chien pour manger, simplement. Elle pique le chien, elle se nourrit. Et une fois qu'elle a bien mangé, elle descend du chien. Et elle va donc se loger dans l'environnement, c'est-à-dire un tapis, un fauteuil, des lames de plancher.
Entre les lames du parquet.
Et puis elle va pondre des œufs, ces œufs vont donner des larves, ces larves vont devenir des puces adultes qui vont réattaquer l'animal qui en plus est allergique. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Et souvent les gens ne viennent pas à bout de ce problème parce que ils ne traitent pas l'environnement.
C'est ça.
Donc, il faut évidemment traiter, prévenir l'apparition de puces en traitant tous les animaux en présence. Et il faut également traiter, assainir l'environnement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident si on veut travailler avec des produits naturels, parce que se débarrasser des puces, c'est parfois avec des sprays insecticides qui ne sont pas marrants à utiliser.
Des produits chimiques qui sont nocifs aussi.
Des produits chimiques, mais qui sont parfois nécessaires.
Et parfois, il faut faire intervenir des sociétés.
Ah,
c'est
devenu
tellement
vraiment
difficile
tout à fait. Parfois,
de
dans
les éliminer, même avec des sprays. Ouais. J'ai entendu des cas récemment.
Ouais. Ouais.
Il faut faire intervenir
des sociétés qui font des fumigènes, fermer les fenêtres.
Et
12
qui viennent deux fois.
Ah oui, oui, oui.
C'est pas toujours facile. Alors,
un
animal qui est allergique aux puces, il le restera toute sa vie. D'où l'importance de bien commencer les traitements tôt dans la saison. Par exemple, actuellement, au cabinet, on a des animaux qui présentent déjà des puces.
Ah, waouh!
Il fait pourtant assez froid encore, mais on a déjà des puces.
Mais si les puces sont à l'intérieur et qu'on a les chauffages qui sont montés à
19-20
degrés,
voilà, c'est ça.
Alors on a forcément
des... Maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi quand même se poser la question, est-ce qu'on traite un animal en plein hiver quand il gèle? Peut-être un animal qui côtoie pas trop d'autres chiens. Il y a aussi toute une
réflexion
qu'on peut avoir sur aussi l'impact dans l'environnement. Et donc, parce que c'est tous ces produits sont du coup forcément éliminés dans l'environnement. Hein, c'est...
Via les matières fécales et
voilà,
les
urines. Voilà, c'est ça, via les poils. Oui. Et donc, il y a des études qui sont faites en Angleterre sur l'incidence des poils de chiens traités sur les nids d'oiseaux. Et on pense qu'il y a quand même un impact sur les populations d'oiseaux. Donc, il faut quand même un peu avoir une utilisation réfléchie de ces produits et peut-être bien surveiller l'animal, mais espacer en hiver. Sauf que quand on a un animal allergique, il faut être vraiment doublement prudent parce que l'animal, il suffit d'une seule piqûre de puce pour développer tout un gros, gros problème d'allergie et des complications.
Oui, ça part en rush.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a des résistances de puces aux différents traitements qu'on élabore ?
On se rend compte quand même que les produits qu'on utilisait il y a 20 ans ne fonctionnent plus très bien actuellement. On a quand même des produits...
Les puces développent des résistances
voilà,
aussi.
C'est ça, voilà. Ouais, et puis maintenant, on travaille beaucoup avec des... Enfin, il y a beaucoup de produits qui sont sous forme de comprimés. Avant, c'était plutôt des pipettes qu'on appliquait entre les deux épaules. Maintenant, on est plus friand entre guillemets
On a dû évoluer parce qu'il y a la résistance.
Voilà, c'est ça. Oui, et puis l'application. C'est vrai quand on donne le comprimé à l'animal, sauf s'il le vomit une heure après, mais. C'est quand même, on a un respect du traitement qui est meilleur.
En 4 heures, elle meurt.
Oui. Après ingestion péros, ouais. donc par la bouche.
Ouais.
Étonnant. Est-ce que ces molécules ingérées par l'animal sont tout à fait inoffensives ?
Elles ont été en tout cas étudiées pour.
C'est ça.
Après, c'est sûr qu'il faut quand même adapter ces traitements si on a un animal âgé ou un animal affaibli.
Oui.
Il faut surtout l'adapter au poids de l'animal, pas mélanger. Ça, c'est pour les gens qui ont des chats. Bon, là, normalement, on est censé parler des chiens, mais ne jamais utiliser une pipette petit chien pour un chat. Voilà. Donc, il faut bien respecter.
C'est pas la même concentration nécessaire.
Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait.
C'est ça.
Voilà.
Est-ce que pardon.
Je t'interromps alors. Je pense que on parle des chiens, mais quand il y a des familles avec chats, il faut parfois traiter les chats bien avant les chiens.
Il faut, ouais. C'est-à-dire ce que je disais, il faut traiter tous les animaux en présence.
Oui.
Ouais, ça c'est super important.
C'est les mêmes puces qui attaquent les chiens et les chats.
La puce pique toutes les espèces.
C'est ça.
Elle n'est pas spécifique à l'espèce comme le pou.
Oui.
Qui, s'il va piquer, si c'est un pou d'une espèce, s'il pique une autre espèce, il en meurt parce qu'il n'est pas capable de digérer. Par contre, la puce, elle adore, elle aime tout.
Indigestion du pou.
Omnivore. Oui, voilà, elle aime tout.
Sans faire de publicité.
Y compris les mollets des maîtres.
Oui.
Et, voilà.
Qui n'a pas eu sa piqûre de puce au mollet. Sans faire de publicité, sans faire de publicité, vous avez 2-3 noms de comprimés anti-puce.
Ça, c'est un peu délicat d'aller peut-être donner des noms parce que...
Ok. Ok.
Enfin,
bon,
je sais pas.
On demande à son pharmacien, à son vétérinaire, bien sûr.
Non, surtout à son vétérinaire. Surtout à son vétérinaire.
Mais
le pharmacien, de toute façon, ne délivrera pas. Il a besoin de prescription.
C'est toujours sur ordonnance.
Oui,
voilà. Okay.
Parce que c'est tellement à adapter à l'animal et en fonction du mode de vie de l'animal, de la région aussi. Parce que c'est vrai que si c'est un animal qui va voyager dans le sud, on va prescrire des antipuces plus spécifiques pour aussi d'autres problèmes qui sont présents dans le sud, pendant les voyages en Espagne, en Italie, dans le sud de la France. Donc voilà, donc c'est vraiment donner des noms comme ça, c'est un peu peut-être pas. Peut-être
d'accord.
Pas, voilà.
Autre chapitre.
Oui.
À part les puces,
oui.
la peau de l'animal est sensible à d'autres allergènes.
Tout à fait. Donc il y a une grande famille d'allergies qui s'appelle l'atopie.
Oui.
Et donc là, on se retrouve avec une pathologie déjà à prédisposition génétique. On a quand même une grosse prédisposition. Il y a des races qui sont malheureusement victimes de l'atopie.
Le Westie, le bulldog anglais.
Voilà, le labrador.
Le français aussi, aujourd'hui.
Le boxer, le charpei, tout ce qui est les American
Staff. Les pies.
Voilà, c'est ça. Ce sont des animaux qui sont malheureusement plus touchés par l'atopie. Elle peut être héréditaire. Et elle touche 10% de la population canine. Donc
c'est énorme.
Quand même, quand même assez énorme.
Vous devez en voir beaucoup.
Voilà.
Beaucoup.
Et en fait, on a une catégorie d'animaux de chiens qui sont plutôt atopiques, qui vont développer ça sur des allergènes respiratoires. Donc ça peut être des moisissures, des pollens, des graminées, des herbacées. des acariens, voilà. On pensait d'ailleurs à ce propos avant que l'atopie pouvait être saisonnière, mais on s'est rendu compte que même une atopie saisonnière peut un peu se déclencher toute l'année. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui sortent par rapport à tout ça. Et alors, il y a aussi l'allergie alimentaire, donc oui, aux aliments. Voilà, ça, c'est deux grandes familles d'allergies.
Ça se traduira aussi bien par des troubles cutanés que digestifs, ou bien on parle du cutané?
Peut avoir aussi... c'est vrai que quand on a une allergie alimentaire, on peut aussi avoir associé des troubles digestifs. Ça peut tout à fait être le cas. Après, les symptômes de... Enfin, voilà, on va peut-être parler des symptômes qui apparaissent.
Oui, certainement.
Et donc, en fait...
On a fait le tour de toutes les sortes d'allergies.
D'allergies. Après, il reste l'allergie de contact, qui est un peu plus rare.
Oui.
On n'en voit pas souvent. Et donc, voilà, c'est peut-être un peu plus facile à déterminer, parce que c'est souvent lié à un objet ou à une matière...
Et sur une région du corps.
Aux zones du corps qui sont en contact avec la matière. Voilà. Mais donc, c'est pas la plus fréquente. Et celle-là aussi, elle est un petit peu plus facile. Enfin, il faut évidemment l'identifier. Hein, je dis c'est facile, pas toujours évident. Mais on supprime la matière qui provoque l'allergie de contact.
C'est ça.
Comme on supprime les puces. Voilà. Tandis que les allergènes respiratoires, malheureusement... On ne peut rien y faire, ils sont dans l'air.
Ils sont dans l'air, on
ne
les voit pas.
On ne peut rien y faire, voilà.
Comment est-ce qu'on diagnostique une atopie ?
Là, c'est super intéressant, parce que beaucoup de gens se méprennent par rapport à ça. Donc, le diagnostic, il se fait sur les symptômes, essentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, on va déjà avoir des symptômes qui apparaissent généralement entre 1 et 3 ans. Sauf dans les cas très, très graves.
Il faut que le système immunitaire soit mature avant d'être déréglé par...
Et qu'il se soit sensibilisé, qu'il ait déjà été en contact. Alors, on a des cas très, très graves où on peut avoir des problèmes d'allergie à partir de l'âge de 3 mois, mais c'est plus rare. En général, c'est entre 1 et 3 ans. Donc déjà, ça, c'est déjà une aide au diagnostic.
C'est ça.
Puis, on va avoir la localisation des symptômes. Très souvent, les deux, on peut parfois simplement avoir une otite ou une atteinte au niveau
des doigts
et des espaces interdigités,
oui,
et avoir ce qu'on appelle une pododermatite. C'est les deux symptômes majeurs, plus évidemment du prurite, donc des démangeaisons sur le corps, mais c'est pas toujours. Enfin, c'est pas toujours le cas.
C'est ça.
Et puis, ce qu'on peut avoir, c'est des complications. À partir du moment où il y a un terrain allergique, on peut avoir des complications bactériennes, on peut avoir des complications par levure, notamment la malassezia. Mm-hmm. Dans les oreilles, dans les oreilles, sur le corps, les espaces interdigités, on peut avoir tout ça. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par élimination. C'est-à-dire qu'on va éliminer toutes les autres pathologies qui peuvent donner ce genre de problème. Donc là, effectivement, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, parce que ça devient vraiment un diagnostic. Voilà, donc, mais c'est après avoir donc, déjà la localisation des lésions, l'âge d'apparition, et puis l'élimination de tout le reste. Et là, on se dit, voilà, on est face à un animal atopique. Et puis la race aussi, qui
bien
nous
sûr
met un petit peu sur la piste.
Tout
sur
le
la
contexte
voie
clinique,
voilà,
en fait.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, on se dit, voilà, on a un animal atopique. Là, le diagnostic, il est fait. Et puis, après, on se pose la question de comment on va traiter cet animal. Donc, on va le traiter... éliminer l'allergène. À ce moment-là, ça va être très compliqué. Si l'animal est très, très atteint, on peut imaginer faire une cure de désensibilisation. Mais c'est quelque chose d'assez fastidieux, et on peut dire qu'on a les effets au bout de... On peut estimer avoir des effets au maximum après un an de traitement.
Donc,
c'est quand même quelque chose qui est long. Voilà.
La désensibilisation veut dire qu'on arrive à déterminer les allergènes, en général respiratoires.
Il faudra les identifier,
oui,
tout à fait.
Alors, est-ce qu'on fait une prise de sang pour
alors,
ça
Alors, là, à ce moment-là, on peut faire une prise de sang.
C'est ça, mais elle vient seulement après.
Mais on ne fera pas une prise de sang pour faire le diagnostic.
D'atopie,
on fera une prise de sang pour éventuellement avoir les allergènes les plus qui induisent cette allergie, et pouvoir les utiliser pour une cure de désensibilisation.
C'est ça.
Mais,
c'est très fastidieux. Je vois beaucoup de propriétaires qui sont embarqués dans cette...
Voilà. Et alors, la prise de sang n'est pas forcément toujours l'unique moyen de mettre en place une cure de désensibilisation. On peut aussi faire une, un test intradermique, où là, on injecte en intradermique tous les allergènes.
Oui, on fait un quadrillage, comme fait le médecin.
Voilà, comme pour l'homme.
Oui.
Et alors, à ce moment-là, on choisit les allergènes qui induisent le plus de réactions pour préparer la solution qui permettra la désensibilisation.
Est-ce que ce n'est pas plus fiable
que le test sanguin, bien sûr. Oui, oui, tout à fait.
On arrive au milieu de notre émission. On est en plein sujet de l'allergie cutanée chez le chien. Via des allergènes respiratoires. On n'a pas parlé des allergènes alimentaires.
Ouais.
Comment
Gros sujet, bien sûr.
Vous avez toutes les deux beaucoup de travail à faire à ce propos.
On parle plus trop d'allergie alimentaire, plutôt d'intolérance alimentaire. Et en fait, le diagnostic, par contre, il ne va pas se faire sur une prise de sang, parce que le nombre de personnes qui sont convaincues qu'on peut faire une prise de sang et déterminer ce à quoi leur chien est allergique, c'est véhiculé par le tout un chacun, par Dr Google, c'est véhiculé par les labos aussi, hein, qui proposent ce genre d'examens, qui sont complètement des examens pas fiables. L'allergie alimentaire, le diagnostic se fera sur un régime d'éviction. C'est-à-dire qu'on va nourrir l'animal avec, ce sont souvent les protéines qui sont allergisantes, avec une protéine que le chien n'aura jamais mangée de toute sa vie. Parce que s'il mange une protéine qu'il n'a jamais mangée de toute sa vie, il n'aura pas eu l'occasion de se sensibiliser à cette protéine.
Ça.
Et on va faire un régime d'éviction sur 12 semaines. Parce qu'il faut 12 semaines pour qu'on puisse vraiment réellement conclure que le régime d'éviction a un effet. Parce que parfois, il y a des chiens qui réagissent très tardivement dans ces 12 semaines, et donc avec une peau qui s'améliore.
Donc pendant 12 semaines, on donne que strictement.
Alors, là, il y a deux écoles. Soit on fait une éviction alimentaire ménagère et on va choisir une viande que l'animal n'a jamais mangée. Imaginons, par exemple,
l'associe avec du riz et des légumes, ou bien on la met pure, parce que c'est pas très équilibré.
On va faire une ration un peu équilibrée, mais très peu de céréales de toute façon, surtout pas. Oui. Enfin, souvent c'est un petit peu de riz ou un petit peu de patates douces, ou voilà, mais très peu. Et puis des légumes. Mais on essaye d'éviter de trop mélanger de choses. Hein,
vraiment. Bien sûr.
Donc, mais c'est surtout la protéine qui est importante. Et puis après, c'est sur une courte durée. Donc il ne faut pas se dire qu'on va créer des gros déséquilibres sur 12 semaines. Ou alors on utilise des croquettes médicalisées qui sont élaborées à base de protéines hydrolysées.
C'est ça.
Voilà, donc ça, c'est les deux manières de faire. Et il faudra le faire donc pendant 12 semaines, mais surtout, il faudra faire un test après de provocation. Parce qu'il faut savoir qu'un chien qui est allergique aux allergènes respiratoires, il peut aussi spontanément s'améliorer avec l'alimentation. Il y a 30% des chiens atopiques aux allergènes respiratoires qui s'améliorent avec une alimentation qui renforce la barrière cutanée. Donc, il y a aussi des alimentations médicalisées qui renforcent la barrière cutanée et qui permettent vraiment d'améliorer de 30%.
Donc, le traitement, en fait, c'est un traitement croisé. On va s'orienter, enfin, on va traiter l'animal avec une diète.
Et puis, on peut avoir aussi des chiens qui sont allergiques et à certains allergènes respiratoires et à certains allergènes alimentaires.
C'est ça.
Donc, ce qui fait que, du coup, si on a une amélioration, c'est bien, on constate, mais il faut faire un test de reprovocation. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réintroduit un aliment par quinzaine. Et si l'animal se regratte, par exemple, dès qu'il remange les croquettes qu'il mangeait avant, là, on est sûr que c'était vraiment un problème d'alimentation.
C'est ça.
Mais si l'animal ne se regratte pas et qu'il continue à aller bien, mais qu'il se regratte 3 mois après, on se dit, voilà, c'était pas l'alimentation. C'est parce qu'il se regratte, parce qu'effectivement, il est allergique à des allergènes respiratoires et que la crise d'atopie, souvent, elle évolue par crise, hein, et qu'il est de nouveau dans une crise atopique, quoi.
C'est ça. Très difficile de mener sa barque et de... Parce que c'est comme Sherlock Holmes.
Oui, c'est ça, voilà, exactement. Petite enquête.
Il faut faire sa petite enquête et patient.
Il faut qu'il y ait un respect du traitement.
Exact. Ah oui, pas les à côté.
Parce que si, par exemple, madame donne bien, bien les croquettes hypoallergéniques, mais que monsieur, derrière le dos, va donner un petit bout de fromage de temps en temps, on va dire que le traitement ne marche pas, mais en fait, c'est parce que c'est pas respecté. Pareil pour le chien qui sort et qui avale tout ce qui traîne. Ça va être un chien où ce sera beaucoup plus difficile de mettre en place un régime alimentaire. Donc, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. Quoi.
Certainement, certainement. Rémi, toi, tu parles de l'alimentation de manière très particulière aussi. On va peut-être voir ta façon à toi, pourquoi pas. Et oui, tu en parles beaucoup et tu proposes plutôt du...
En fait, puisque j'ai été éduquée de façon holistique aux États-Unis, donc je suis revenue avec une formation pour prescrire à l'époque ce qu'on appelait du barf, c'est-à-dire de la nourriture crue, moulue, surgelée. Donc, j'ai eu affaire à une clientèle qui était orientée vers ça et qui développe, à mon avis, qui a développé beaucoup moins d'allergies alimentaires, qui... me semble-t-il, je ne sais pas si Valérie va me contredire, qu'elles sont souvent apparues chez les chiens avec des aliments industriels faits à base de poulet. Maintenant, je trouve...
C'est-à-dire, je pense quand même qu'il y a des protéines qui sont effectivement le bœuf, le poulet... mais bon, on peut se retrouver avec un peu tout et n'importe quoi. Je pense que maintenant, actuellement, mais c'est vrai que avant, on donnait du poulet quand on avait justement, on pensait que le poulet était un bon aliment et qui n'induisait pas de problème. Mais on s'est rendu compte effectivement que le poulet maintenant est beaucoup plus allergisant
que le bœuf encore. Parce que le bœuf c'est déjà costaud.
Ce sont les deux protéines qu'on élimine.
J'ai pas de tableau avec les protéines les plus, mais bœuf et poulet, c'est quand même, ils sont sur le podium des protéines allergisantes, quoi. Oui.
Et en tant que praticienne de médecine chinoise, elles sont classées dans les protéines chaudes.
Ok.
Et donc, quand on disait effectivement en cas de diarrhée ou d'allergie qu'il fallait donner du poulet, je ne le fais pas depuis très longtemps, mais je vais orienter vers du lapin ou du poisson qui sont des protéines froides. Donc, j'ai une autre façon d'aborder les allergies pour arriver plus ou moins au même résultat.
Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, l'idée, c'est après de donner une protéine que l'animal n'a jamais mangée. Donc, si, par exemple, l'animal n'a jamais mangé de lapin, bah forcément, ça va bien fonctionner, quoi.
Mais pas toujours. Enfin, pour moi, le lapin fonctionnera mieux puisque c'est un aliment qui ne va pas l'échauffer. Une allergie, c'est un symptôme chaud.
En médecine chinoise.
En médecine chinoise.
C'est deux approches différentes. Mais de toute façon, enfin voilà.
Mais on se rejoint.
Intéressant, de toute façon. Valérie, le régime d'éviction, finalement, est-ce qu'il doit être conservé pour toute la vie du chien ?
Ça dépendra un petit peu de la famille, justement. Il y a des gens qui préfèrent, par exemple, garder la croquette médicalisée parce qu'ils trouvent que ça fonctionne bien et ils ont tellement vécu l'enfer avant qu'ils sont très contents de rester avec cette croquette-là. Et puis d'autres qui préfèrent quand même aller vers un régime un peu plus naturel. J'ai aussi moi-même tendance à préférer mixer les croquettes avec des repas frais. Alors on essaye de trouver les ingrédients qui fonctionnent, quoi.
En croquettes non médicalisées, c'est très difficile de trouver des croquettes sans monoprotéines et puis sans poulet.
Ah oui,
maintenant
ils sont toutes à base de poulet.
Je connais une ou deux marques allemandes, mais c'est compliqué.
Il faut chercher les étiquettes qui ne sont pas toujours très honnêtes.
Il nous reste pas beaucoup de temps. Juste parler des traitements en médication. Il existe des molécules anti-allergiques.
Alors, en fait, donc le traitement de l'allergie, c'est la suppression de l'allergie. On résout le problème. Maintenant, c'est effectivement pas possible. Il faut absolument que les maîtres de chiens allergiques intègrent le fait que c'est une maladie qui va accompagner le chien toute sa vie.
C'est ça.
Et donc, il va falloir la gérer.
Prendre son mal en patience.
Voilà. Et donc, l'idée, c'est de donner le moins de médicaments possible. Il existe actuellement plus ou moins quatre familles qui agissent sur l'allergie, c'est-à-dire qui va permettre de supprimer ces symptômes de démangeaison. Mmh. La cortisone qu'on n'utilise presque plus.
Pour ça.
Maintenant, on est beaucoup à travailler avec l'Apoquel et le Cytopoint. Bon, c'est pour oui. ce sont des marques commerciales parce que les noms sont les noms.
Mais c'est de l'immunothérapie. Hein.
La ouais. Cytopoint, c'est de l'immunothérapie. L'Apoquel, ouais. non. Et, okay. donc, en fait, ce sont des traitements qui permettent de supprimer la démangeaison.
C'est ça, le symptôme. Voilà.
Et donc là aussi, pareil, il y a des chiens qui vont très très bien répondre à un traitement et d'autres à un autre traitement. Il faudra parfois un peu tâtonner pour trouver le traitement qui. Et alors, c'est un traitement qu'on va essayer de donner par crise. On va pas donner ça continuellement.
Tout le temps, c'est
on va,
ça.
On va le donner à dose complète et puis on va diminuer la dose et puis on va essayer de ne plus donner la dose.
C'est ça.
Du tout, d'arrêter. Et souvent, si la crise s'arrête, le chien pourra être sevré de ses médicaments jusqu'à la prochaine crise.
C'est ça.
Idéalement. Après, il y a des chiens, malheureusement, qui ont des atopies très, très sévères
ouais.
et qui demandent des gestions. Voilà,
traitement en permanence.
Après, ce qui est très important aussi, c'est de renforcer la barrière cutanée. Et là, renforcer la barrière, parce qu'on sait que c'est sûrement lié à un déficit de la barrière cutanée. Et là, on va avoir tout ce qui est aliments qui vont renforcer la barrière cutanée, les shampoings, les hydratants, pour un petit peu, justement, aider la barrière cutanée à
faire son job.
À faire son job, exactement, tout à fait. Voilà,
malheureusement, il y a encore beaucoup de traitements à voir. On est tout à fait au bout de notre temps.
Enfin, j'ai résumé. Voilà,
tu as résumé, magnifique. Voilà, on pourra de toute façon redévelopper le sujet dans une autre émission. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie encore, Rénie, Valérie. On se dit à très bientôt pour encore plein de beaux sujets.